Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM.
Frédéric Ancel est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Frédéric Ancel, vous êtes enseignant, vous êtes docteur en géopolitique de l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, je vais juste rappeler le dernier. « La guerre mondiale n'aura pas lieu ». C'est paru aux éditions Odile Jacob et c'est déjà un best-seller. Vous allez animer, vous allez participer à un colloque sur le sionisme et c'est la raison pour laquelle vous êtes notre invité ce soir. Ce sera lundi 12 mai au Sénat. Il faut préciser d'ailleurs qu'il y aura une inscription obligatoire. On vous retrouvera également le lundi 28 avril pour les 15e assises nationales contre le négationnisme. Ça, c'est à la mairie du 9e et l'entrée est totalement libre. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de venir vous voir. Donc voilà, lundi 28 avril, les assises nationales contre le négationnisme à la mairie du 9e avec entrée libre. Et lundi 12 mai, colloque France-Sionisme-Israël. Frédéric Ancel, si on avait parlé à l'époque, on va dire tout de suite après-guerre, mais aussi peut-être l'époque du Parti Socialiste de François Mitterrand, même du Nouvel Observateur de Jean Daniel, on aurait mis ces trois mots ensemble, France, sionisme, Israël, ils étaient naturellement ensemble. Aujourd'hui, on a l'impression d'une sorte de divorce. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il faut toujours être très très prudent avec le terme de divorce, parce que c'est un divorce, oui peut-être, mais avec une partie seulement du public et de l'électorat, on va dire ça comme ça, ou du peuple français, mais essentiellement se situant à l'extrême gauche. Or là, si vous avez bonne mémoire, et c'est le cas, si vos auditeurs, et c'est leur cas, c'est le cas, pardon, c'est leur situation, connaissent un peu les grandes tendances politiques de l'après-guerre, eh bien ils savent que le Parti communiste français, suivant très fidèlement et très strictement le camarade Staline et ses successeurs, ont toujours été très violemment antisionistes. Du moins, le disait-il, c'est-à-dire qu'il, déjà à l'époque, il galvaudait le terme et il l'instrumentalisait pour stigmatiser de manière constante Israël, voire pire si affinité, c'est-à-dire parfois de façon très clairement antisémite. Bon, bah, excusez-moi, ça n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire qu'on peut déplorer qu'une grande part, enfin que toute l'extrême-gauche en fait, la vérité c'est que toute l'extrême-gauche française et peut-être malheureusement une petite partie d'autres pans français considère le sionisme comme un phénomène extrêmement négatif, mais je considère que, sorti d'extrême-gauche, on a surtout affaire à des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Hein. D'où ce colloque, et c'est très important de rappeler d'un mot, enfin d'une phrase, que, au fond, c'est le sionisme, c'est surtout, essentiellement, me semble-t-il, le droit pour le collectif juif de se représenter pas seulement comme une religion ou comme un groupe culturel, mais aussi comme un peuple et comme une nation, avec les droits afférents à un peuple et à une nation, des droits dont je rappelle qu'ils sont reconnus par la Charte des Nations Unies de 1945. Donc le sionisme, par définition, légitime évidemment le droit d'Israël, ce qui ne veut en aucun cas dire qu'on doit être aveuglément favorable, ou tout simplement d'ailleurs favorable, à n'importe quel des gouvernements israéliens successifs depuis 1948. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Depuis quand remettons en cause le droit pour le peuple français de se représenter comme un peuple et le droit pour la France d'exister comme État-nation souverain et souveraine parce que telle ou telle politique gouvernementale à un moment M. Enfin, c'est ridicule.
Alors, pour moi, la définition du sionisme aurait était, c'est croire à l'existence d'un État d'Israël, à son droit à exister. Alors qu'en fait, peut-être que le sionisme, c'est plutôt le droit des Juifs à retourner vivre sur place. C'est ça le sionisme, c'est envoyer ou aider ou permettre aux Juifs de retourner vivre sur la terre d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, mais on parle de la même chose, mais quand vous dites un État, oui, mais un État, donc, mais parce qu'il y a une conscience nationale, parce qu'il y a un peuple revendique un État. Chapitre 1er, article 1er, alinéa 2, donc 1-1-2, c'est tout en haut d'un texte, hein, de la Charte des Nations Unies. Je n'invente rien. Et de ce point de vue-là, je vois très mal pourquoi le collectif juif ne pourrait pas, s'il en a envie, en tout cas pour ceux parmi ses membres, hein, qui ont envie de se représenter comme tel, pourquoi ce collectif-là ne pourrait pas se représenter comme un peuple avec le droit afférent à disposer d'un État, tandis qu'on accorde ce même droit à aux 192 autres pays reconnus, enfin États reconnus aux Nations Unies, à commencer par le peuple français, le peuple togolais, le peuple birman. Et tiens, pourquoi pas le peuple palestinien ? Après tout, ceux qui stigmatisent le plus durement ce qu'ils appellent ou ce qu'ils croient comprendre comme étant sionistes pour l'État d'Israël sont en revanche très farouchement favorables à la notion de peuple palestinien. Mais pourquoi pas ? Il n'y a aucun problème. J'ai toujours dit qu'il y avait une conscience nationale palestinienne. Et je suis bien placé pour le dire, j'ai beaucoup travaillé dessus et dans cette région. Mais simplement, ça n'a strictement aucun sens de considérer que pour tous ces gens-là, et j'en oublie des centaines à travers le monde, bah, on a le droit de se considérer comme un collectif de nature populaire et nationale, et pas pour les juifs. Eh bien, c'est ça l'antisionisme en réalité.
Et vous considérez que c'est une forme d'antisémitisme ?
Alors, c'est une très bonne question, très juste. Il y a deux formes d'antisionisme. Il y a un antisionisme que je qualifierais d'ignorant et d'incompétent. Au fond, des gens de bonne foi, de bonne volonté, j'en ai rencontré à travers des centaines de conférences dans ma déjà longue vie, disant, enfin, on ne comprend pas, les juifs constituent une religion, alors depuis quand une religion a le droit d'avoir un État ? Regardez, le Vatican, ce n'est pas vraiment un État, et puis d'ailleurs les juifs, et puis Moïse et la Bible, etc. Bon, très bien. Ça, je veux vous dire franchement, ce n'est pas d'antisionisme virulent, on peut discuter avec ces gens-là, et assez rapidement, d'ailleurs, ils entendent les arguments en faveur du droit simplement à l'existence de l'État d'Israël. Et puis, vous avez, beaucoup plus problématique, l'antisionisme virulent, qui, lui, militant, qui, en général, pas toujours, mais en général d'extrême-gauche, qui considère, ou chrétien traditionnaliste avant Vatican II, qui considère que les Juifs ne sont pas un peuple. Contrairement à ce que certains parmi eux prétendent, et que par conséquent, Israël est une imposture, et d'ailleurs, regardez à quel point cet État se comporte de manière violente, etc. Et à ces gens-là, je dis la chose suivante, si vous reconnaissez le droit à s'incarner comme un peuple pour d'autres populations et pas le collectif juif, vous discriminez très concrètement, très clairement, le collectif juif. La discrimination à l'égard des Juifs, ça porte un nom, c'est l'antisémitisme.
La rupture avec la France et De Gaulle ? Parce qu'en fait, les Français ont aidé Israël dès la guerre d'indépendance, il y a eu des armes qui ont été négociées, notamment par Shimon Peres. La rupture, c'est 67, c'est Général de Gaulle ?
Alors, oui et non, parce que d'abord, la France aide bien avant la création de l'État d'Israël, même le Yishuv, hein, avec notamment le gouvernement de Front Populaire, on peut même remonter un petit peu plus haut. Après, on a affaire à une véritable alliance, tout ça est extrêmement connu, mais on le rappellera d'ailleurs avec des gens tout à fait compétents. Oui, bien sûr, 67, il y a une forme de rupture, mais cette rupture n'est pas, elle n'est pas complète, elle n'est que partielle. D'abord, rien n'indique avec une certitude absolue que De Gaulle n'a pas laissé pendant deux années qu'il était encore au pouvoir, après la guerre des six jours de juin 67, rien n'indique qu'il n'a pas laissé des matériels continuer d'aller, de rejoindre notamment des pièces détachées d'Israël. L'embargo, vous savez, il y a pas mal de controverses historiques là-dessus. Il n'est pas certain qu'il ait été complètement étanche. Et si étanchéité, sévérité, il n'y a pas eu au point où on croit, c'est difficile de croire que De Gaulle a été blousé par des officiers supérieurs qui lui devaient tout et qui étaient en pamoison devant lui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la rupture, elle n'est donc pas totale parce que, en dépit d'une période réellement désastreuse sur le plan, ça c'est vrai, diplomatique, commercial, en gros, c'est Pompidou et Giscard, quoi. Dès 81, Mitterrand, auquel on peut reprocher beaucoup de choses en matière d'affaires étrangères et notamment au Proche-Orient, a quand même rétabli une forme d'équilibre et je pense pouvoir affirmer que ça a été ensuite relativement suivi. Évidemment, on a encore quelques épisodes considérés comme douloureux, parfois ridicules, sous l'ère Chirac. Mais en tout cas, ce qui me paraît vraiment certain, c'est que les trois présidents successifs, Sarkozy, Hollande, Macron 1 et Macron 2, ont eu la même politique à l'égard d'Israël, c'est-à-dire une véritable politique d'amitié. Je crois que c'est franchement très difficilement contestable sur le plan diplomatique, c'est vrai sur le plan culturel. Sur le plan commercial, l'augmentation du volume d'échanges, dont on pourrait considérer qu'il n'est pas suffisant, parce que vous savez que la France, encore aujourd'hui, n'est que le quatrième partenaire économique d'Israël dans l'Union européenne. Ça paraît aberrant. Même les Italiens sont devant la France. Enfin, donc ça pourrait être amélioré, mais je ne crois pas que ce soit du ressort de la volonté d'un président ou d'un autre. Et enfin, sur le plan politico-militaire, quand même, il faut vraiment pas dire n'importe quoi. Il y a quelques mois de cela, la France était le seul pays occidental, d'ailleurs pour être très honnête avec le Royaume-Uni, c'est les deux seuls pays, et en tout cas le seul pays de l'Union européenne, je parle de la France, à envoyer des hommes et des matériels, empêcher des missiles iraniens de frapper le sol israélien. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ça, et attendez, et sans qu'il n'y ait aucun, statutairement, aucun accord de partenariat, enfin, je veux dire stratégique, d'alliance stratégique entre d'assistance mutuelle.
Ça, c'est énorme, ça. Et vous savez qu'il y a même des... Ah oui, il y a même des officiers supérieurs israéliens qui disent, pour moi, c'est un miracle. Mais même d'ailleurs, même les États-Unis, les voir des avions, voir du matériel français lutter contre l'Iran, en fait, entrer en guerre.
Vous voyez, bon, et ça vient pas de tel ou tel pan d'opinion publique. Ça, c'est directement une volonté élyséenne, quelque soit dans le sens d'un pied dans notre président. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on ne peut pas balayer d'un revers de main ce genre de fait militaire rarissime, comme si c'était une évidence, et par ailleurs contester telle ou telle formule, d'ailleurs qui peut être malheureuse, hein, ou telle volonté d'un président, par exemple, tiens donc, de reconnaître un État palestinien. Alors on peut contester le fond, on peut contester le timing, mais on ne peut pas contester que la France et Israël soient des États authentiquement proches et amis. Ça, on ne peut pas le contester.
Et l'interdiction faite à des entreprises israéliennes d'armement de venir exposer à Paris, on ne peut pas imaginer franchement que c'est une société privée qui a pris une décision pareille. Il y a trop d'enjeux. Toutes les industries d'armement israéliens avaient réservé leur place au dernier moment en leur disant « on s'excuse, vous ne pouvez pas venir ».
Élysée, ministère de la Défense. Ça ne relève pas du monde associatif ou entrepreneurial.
Non, mais du monde de l'entreprise.
Oui, non mais bien sûr, non mais sauf que les très grandes entreprises militaires françaises sont évidemment et heureusement par définition liées à l'État. Bon, il faut bien comprendre que dans un pays très centralisé comme la France où le chef de l'État, en tout cas sous la cinquième, dispose de prérogatives herculéennes en matière de défense et d'affaires étrangères, pratiquement toutes, enfin les plus importantes en tout cas, on ne peut pas considérer que ce genre de décision ait été prise comme ça à la légère par
certains entrepreneurs.
Ça vient de l'Élysée.
Et alors ? C'est le contraire à ce que vous venez de dire.
Attention, non mais on peut très bien avoir affaire à une décision prise en rétorsion d'une politique menée par un gouvernement israélien qui serait en désaccord avec ce que souhaite un président français. Non mais attendez, l'amitié, le partenariat économique et éventuellement militaire ne signifie pas l'inconditionnalité. Je me permets d'ailleurs de rappeler, mais je pense que vos auditeurs le savent et l'ont compris ces dernières semaines, même Monsieur Donald Trump est très loin d'être inconditionnel de M. Netanyahou. Et ceux qui croiraient le contraire seraient de grands naïfs et ils risquent d'être déçus dans les prochains mois. Donc évidemment, il n'y a pas d'inconditionnalité et c'est tout à fait normal, logique, entre la France et Israël.
Quel avenir pour vous si, on a quand même l'impression que ça s'est bien détérioré. Quel avenir pour vous pour les relations franco-israéliennes?
Alors, non, moi je serais plutôt... Pourquoi ? D'abord parce que les prochains, alors les Israéliens décideront, nous on n'a rien à décider ici, mais les prochaines élections générales se tiennent au plus tard dans un an et demi. Et là, il est possible, je ne dis pas que c'est certain, mais il est possible, sinon probable, qu'une autre coalition parvienne au pouvoir qui serait sans doute plus ou moins centriste. En tout cas, c'est ce que disent les sondages depuis maintenant 3 ans, sans interruption. Et là, globalement, on peut s'attendre à des relations, disons, plus chaleureuses, notamment sur le plan diplomatique avec la France et d'autres pays. Je ne suis pas sûr, mais c'est une possibilité. Et le deuxième point, beaucoup plus lourd en termes de tendance, beaucoup plus important, me semble-t-il, il a déjà commencé dans les années 2000-2010. Il n'y a plus de politique arabe de la France. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Là aussi, j'entends parfois des gens dire « mais qu'en est-il de la politique ?» Ça a eu existé dans les années 60, 70, 80, peut-être encore, 90 et encore, pas partout. Mais en réalité, je le dis rapidement, d'abord parce que le monde arabe est lui-même diplomatiquement et militairement et stratégiquement extrêmement déchiré, d'autre part parce que le printemps arabe a révélé et accentué des faiblesses et parfois des véritables catastrophes dans ce monde arabe. Regardez aujourd'hui dans quel état sont la Libye de l'ex-colonel Kadhafi, regardez ce qu'est devenu la dynastie Assad en Syrie, et attendez, là je vous parle que de pays arabes fer de lance, hein, du front anti-israélien à l'époque. Enfin, franchement, c'est pas sérieux de considérer qu'aujourd'hui, on ferait des affaires, en étant européen ou autre, en établissant comme concept un monde arabe plus ou moins uni. Ce n'est pas vrai, il ne l'est pas. Et je pense qu'il ne le sera pas davantage ces prochaines années. Donc pour toutes ces raisons, je crois malgré tout que, et on pourrait ajouter d'ailleurs la lutte commune contre l'islamisme radical, par exemple. Hein, et là, ça ne concerne pas seulement la France et Israël, mais ça concerne aussi la France et Israël. Donc, pour plein de raisons relativement importantes, considérables, je pense que la relation entre la France et l'Israël devrait éventuellement s'améliorer ces prochaines années.
Eh bien, Frédéric Ancel, on va venir vous écouter, on va venir apprendre lors de ce colloque qui aura lieu au Sénat, sur le sionisme, Israël et la France, un colloque que vous présidez, qui sera lundi 12 mai au Sénat. Alors, l'inscription est obligatoire, donc il faut aller, par exemple, sur le site internet de l'OSM, osmfrance.fr, et puis on s'inscrit. Je rappelle également les assises nationales contre le négationnisme qui auront lieu à la mairie du 9e. Ça, c'est plus tôt d'ailleurs, c'est lundi 28 avril prochain, les 15e assises nationales contre le négationnisme. Et puis, votre dernier ouvrage que j'ai dévoré, « La guerre mondiale n'aura pas lieu », c'est le contraire de ce que tout le monde pense, tout le monde se dit qu'on est au bord du gouffre, vous venez, vous dites pas du tout. Les raisons géopolitiques d'espérer, c'est paru aux éditions Odile Jacob. Frédéric Ancel, je vous remercie et bonsoir.
Merci beaucoup, merci à vous.
Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.